VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, deux étudiants ont été tués par balle à l'université de Kinshasa par la police. Toujours en RDC, sept casques bleus de l'ONU ont été tués dans la ville de Beni.
Et à chaque fois qu'ils subissent des défaites, ils ont des brigades qui se vengent sur les populations civiles, ils délivrent parmi les maisons, ils tuent la population et puis ils repartent dans la forêt.
Au moins 40 morts après l'incendie d'un bus au Zimbabwe suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz. À Washington, un juge ordonne à la Maison-Blanche de restaurer immédiatement l'accréditation d'un journaliste de CNN. Dans la Minute Écho, la BAD débloque 21 millions de dollars d'aide budgétaire pour le Tchad et un point sur les éliminatoires de la CAN 2019 dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, deux étudiants sont morts après avoir été blessés par balle cette semaine par des policiers lors de manifestations sur le campus de l'université de Kinshasa. Depuis lundi, les étudiants de l'université manifestent pour réclamer la fin de la grève de leurs professeurs entamée depuis deux mois. Les balles réelles sont interdites sur les sites universitaires. J'exige une peine exemplaire contre les policiers responsables des tirs qui ont engendré la mort des étudiants, a réagi le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Bikai. Et toujours en RDC, les combats se poursuivent dans la région de Beni, dans l'est du pays, où 8 casques bleus ont été tués lors d'une opération avec l'armée congolaise contre les rebelles ADF. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les combats se poursuivent dans le Mayangose où nous continuons à pilonner les positions des ADF. Les forces démocratiques alliées, a déclaré le capitaine Mark Azukai, porte-parole de l'armée dans la région de Beni. Les populations civiles ont été interdites de fréquenter Mayangose, un quartier périphérique de Beni. Selon Noëlla Muliwavio, présidente de la société civile locale, à Mambanike, à environ 30 km de Beni, les rebelles ADF ont fait incursion hier et ont tué 5 civils par balle et brûlé 8 maisons. Elle a ajouté que l'armée est arrivée sur place la nuit dernière. D'après l'ONU, 7 casques bleus malawites et un autre tanzanien ont été tués, 10 autres blessés et un autre porté disparu lors de l'opération en cours. Les Nations Unies font également 4 d'au moins 12 membres des forces armées congolaises tués. Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais présents sur le territoire congolais. Ils sont tenus responsables de massacres de plusieurs centaines de civils et de 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017 à Beni.
Et nous y reviendrons dans la partie magazine. En Centrafrique, violence au centre du pays. Au moins 7 personnes, dont un prêtre, ont été tuées jeudi à Alindao, où se sont déroulés des combats meurtriers entre groupes armés. 4 musulmans ont été tués jeudi matin par des milices anti-balaka et 3 personnes sont décédées dans une attaque séparée du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique. Un prêtre a été tué dans ces affrontements et une autre personne est portée disparue. Au Tchad, le nouveau ministre de la Défense, le général Daoud Yahia, accompagné de Hamada Mahama Titno, le neveu du président tchadien et chef d'état-major général adjoint des armées, sont partis dans le nord du pays, théâtre de violents combats. Le point avec Idriss Fall.
Ils doivent se rendre à Fayal-Arjo, près de la frontière avec la Libye et le Niger. C'est la base des opérations militaires dans le nord du Tchad. Elles sont commandées par un des fils du président Idriss Déby Itno, le général Mahamat Kaka Itno, chef de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Le Tibesti, zone désertique et montagneuse, est en proie à des tensions accrues depuis 3 mois. En août, une attaque de rebelles tchadiens depuis la Libye sur la localité aurifère de Kouri Bougoudi a été suivie d'une riposte militaire musclée. Début novembre, un comité d'autodéfense dans la circonscription de Yébibou s'est créé pour protester contre l'opération punitive de l'armée. D'après Mouli Sougui, porte-parole du comité, c'est aussi pour empêcher l'exploitation des mines d'or au profit du clan Déby et protester contre le nouveau redécoupage administratif qui morcelle le Tibesti.
Au Cameroun, Michel Bientong, journaliste et promoteur du site d'information urinews.com, a été écroué après avoir été inculpé d'apologie du terrorisme, déclaration mensongère et outrage au chef de l'État. Selon le collectif de soutien qui s'est créé après son arrestation, l'interpellation du journaliste est intervenue après une série d'articles pour dénoncer les multiples exactions de l'armée camerounaise dans les zones anglophones où un conflit oppose des séparatistes armés aux forces gouvernementales. Et dans le sud du Zimbabwe, au moins 42 personnes sont mortes cette nuit dans l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un bus. Le point avec Nani Talani.
Plus de 42 personnes sont mortes selon la porte-parole de la police, Charity Charomba. Une bonbonne de gaz appartenant à un des passagers est la cause probable du brasier qui a détruit le bus. Des dizaines de personnes sont mortes et d'autres ont été brûlées, a affirmé le quotidien du gouvernement The Herald. La télévision nationale ZBC a rapporté les témoignages de personnes blessées transportées à l'hôpital de Gwanda. Elles ont déclaré qu'une odeur de gaz s'est propagée dans le bus à la tombée de la nuit et que l'incendie s'est déclaré à bord après que le chauffeur eut allumé les lumières. La télé a publié des photos de la carcasse du véhicule sur une route qui relie la frontière sud-africaine à Bulawayo, deuxième ville du pays. La semaine dernière, 47 personnes ont péri dans une collision entre deux bus sur une route entre la capitale Harare et la ville de Rusape. Le président Emmerson Mnangagwa avait alors insisté sur la nécessité de faire des efforts en matière de sécurité dans un pays où le réseau routier et les véhicules privés sont souvent mal entretenus.
Et plusieurs dizaines de migrants secourus par un cargo au large des côtes libyennes sont bloqués à bord depuis une semaine. Ils étaient en route pour l'Europe et refusent d'être débarqués dans le port de Misrata, craignant détention et abus selon Amnesty International. Quelques 95 migrants, dont des enfants et des nourrissons, ont été interceptés en Méditerranée le 8 novembre. Selon le droit international, nul ne devrait être content d'aller là où sa vie serait en danger, a rappelé Amnesty.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ici aux États-Unis, un juge fédéral à Washington a ordonné à la Maison-Blanche de restaurer l'accréditation d'un journaliste de CNN. Jim Acosta avait été privé d'accès à la présidence des États-Unis après un échange houleux avec le président Donald Trump. Eric Manirakiza.
Le juge Timothy Kelly a ordonné à la Maison-Blanche de rétablir immédiatement l'accréditation de M. Jim Acosta. Ce magistrat a précisé qu'il ne s'était pas prononcé sur le fond, se contentant de prendre une injonction d'urgence. Je veux insister sur le fait que je n'ai pas tranché la question d'une violation du premier amendement, a encore dit le juge Kelly. Les défenseurs du droit de la presse ont toutefois immédiatement manifesté leur satisfaction. CNN avait déposé plainte en se fondant sur le premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression. Cette décision temporaire est une victoire pour la chaîne d'information en continu et son journaliste vedette Jim Acosta. Il avait perdu son accréditation à la Maison-Blanche après un échange houleux avec le président le 7 novembre pendant une conférence de presse. Le journaliste Acosta avait un temps refusé de rendre son micro pour relancer le président Trump qui avait refusé de répondre. L'échange acrimonieux a été repris en boucle par les chaînes américaines.
En Floride, départ du dépouillement à la main d'une élection au Sénat américain. Des dizaines de volontaires se sont pressés dès l'aube devant la commission électorale du comté de Broward pour participer au comptage manuel, le troisième dépouillement lancé en Floride depuis les élections parlementaires américaines du 6 novembre. L'écart séparant le candidat républicain et gouverneur de la Floride, Rick Scott, du sénateur démocrate sortant, Bill Nelson, est infime. Un nouveau comptage à la machine ordonné samedi dernier a confirmé jeudi la légère avance du républicain. Ce nouveau dépouillement manuel doit être achevé d'ici dimanche. Les autorités donneront un résultat final mardi. Les États-Unis peuvent-ils suspendre leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite? C'est le souhait de 6 sénateurs, dont 3 démocrates et 3 républicains, qui ont déposé un projet de loi dans ce sens. Par ailleurs, le département du Trésor a décidé de sanctionner 17 ressortissants saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le procureur général d'Arabie Saoudite a requis la peine de mort à l'encontre de 5 des 11 suspects inculpés. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Alani.
En Angola, le plan de gestion de la pêche et de l'aquaculture sur la période 2018-2022 coûtera 475 millions de dollars. Cette feuille de route vise à atteindre des captures d'environ 2,6 millions de tonnes et une production aquacole de 17 900 tonnes. Elle projette aussi d'installer des unités de conservation de poissons, des centres de salage, des marchés pour les produits piscicoles. Les fonds devraient également permettre de construire des ports et quais de pêche dans les provinces de Kwanza Sud, de Bengo et du Zaïre. L'énergéticien français Engie a signé avec la Compagnie électrique nationale du Sénégal un contrat de rachat de l'électricité qui sera produite par 2 centrales solaires qu'elle compte implanter dans le pays. L'accord est valable pour 25 ans à partir de la mise en service des infrastructures voltaïques qui auront une capacité combinée de 60 MW. Elles seront implantées dans les localités de Kaon dans la région de Kaolack et de Kael dans la région de Touba. Terminons avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui va décaisser 22 millions de dollars pour financer la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey qui s'étend sur une longueur d'environ 170 km. Ces fonds s'ajoutent aux 111 millions de dollars obtenus de la Banque islamique de développement en avril dernier. Les travaux devraient également prendre en compte l'aménagement de 65 km de pistes en terre, la construction de 15 salles de classe, 2 centres de santé et 8 marchés et 10 forages.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Alors le Burundi déroule et double le Mali et le Gabon.
Oui Raïssa, plus de buts à Juba pour le premier match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Au terme d'une rencontre spectaculaire, le Burundi s'est imposé 5-2 sur le terrain du Soudan du Sud. Porté par un Abdul Razak fiston en feu, les Hirondelles ont pris provisoirement la tête du groupe C avec un point d'avance sur le Mali et 2 sur le Gabon qui s'affrontent demain à Libreville. 3-2 pour l'Égypte qui recevait la Tunisie dans le derby nord-africain avec un but victorieux de Mo Salah. En fin de rencontre, les deux équipes sont déjà qualifiées, mais cette victoire permet au Pharaon de prendre la tête du groupe J devant les Aigles de Carthage. Un peu plus tard, à 19h, on aura un choc au Maroc-Cameroun. Une victoire permettrait aux Lions de l'Atlas de valider leur billet.
Yacouba, la suite, c'est pour ce week-end.
Et oui, le Bénin tentera de faire un hold-up à Banjul avant de s'envoler pour la capitale gambienne. Les écuries ont donné une conférence de presse à Cotonou. Notre correspondant Élisée Nkwatine y était. Voici son compte-rendu.
C'est avec un groupe au complet que les écuries du Bénin se sont rendues à Banjul pour affronter samedi les Scorpions de la Gambie. 4 jours de préparation à Cotonou avant ce difficile déplacement de la 5e journée des éliminatoires de cette CAN 2019. Michel Dussuy et son groupe pourront s'entraîner ce vendredi sur la pelouse de Bakao, le stade qui va abriter cette rencontre. Le milieu défensif international béninois de l'AJOC, Jordan Adeoti, a déjà sa tête à la CAN.
Je pense qu'une chose, c'est la sélection et c'est la qualification pour cette CAN 2019. Ce serait une première pour moi personnellement. Donc voilà, c'est vraiment une motivation d'aller chercher cette CAN en fin de saison.
Deuxième de son groupe avec 7 points, juste derrière l'Algérie, le Bénin entend jouer crânement sa chance afin de se qualifier pour une 4e CAN de son histoire. Cotonou, Élisée Nkwatine, VOA Afrique.
Toujours demain, gros choc à Johannesburg entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. En tête du groupe E, le Togo attend l'Algérie à Lomé pour se relancer. La Mauritanie pourrait décrocher une qualification historique lors de la réception du Botswana. Le Sili national guinéen y est presque et n'a besoin que d'un point à Conakry face aux éléphants ivoiriens pour se qualifier. Et bien évidemment, gros choc dimanche avec le derby du fleuve Congo à Brazzaville entre les Diables Rouges et les Léopards de la RDC. Une défaite de l'une des équipes pourrait lui être fatale dans la course à la qualification.
Merci beaucoup, Yacouba Ouedraogo. On va suivre tout ça ce week-end.
Merci à vous.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Gironda avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Burkina Faso, c'est l'inquiétude dans l'Est. Plusieurs centaines d'écoles y sont fermées, des professeurs menacés et obligés de fuir les villages. Un scénario qui ressemble à ce qui a commencé depuis l'an passé dans le nord du pays. Bagassikoura a joint à Fada Est, un habitant qui a requis l'anonymat.
Dans la région de l'Est où je suis présentement, il faut dire que, à part la Capoua et celui de la Nyanya, presque toutes les écoles sont fermées, outre le centre-ville de Padangourma. Il n'y a que une semaine de cela, à tout le mètre de la ville de Padang, même les écoles sont fermées parce qu'ils ont reçu des notes leur demandant de libérer les lieux.
À Padang, même les écoles sont ouvertes.
À Padang centre, les écoles sont ouvertes, mais une commune qui est juste à 30 km de Padang, pour dire que juste à côté, il y a moins d'une semaine, les enseignants ont quitté les lieux pour leur propre sécurité.
Ces menaces-là sont sous quelle forme?
Bon, les menaces, généralement, sont déposées sous forme de notes. Généralement, ils viennent déposer une note. Maintenant, quant à la fiabilité de la note, est-ce les enseignants ou est-ce les mauvaises personnes qui viennent déposer ou est-ce les mauvaises personnes qui viennent déposer la note? Mais tout ce qu'on retrouve dans la note est qu'on demande surtout aux enseignants et aux élèves de libérer les lieux avec les dates limites.
Et donc, on ne connaît pas la crédibilité de ces notes, mais ce qui est clair, c'est que ça crée une certaine psychose qui amène les gens à fermer les écoles.
Ça crée vraiment une certaine psychose parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Certains ont peur de parler, même s'ils ont des informations. Nous espérons vraiment que d'ici la période, nos autorités vont prendre des mesures. Sinon, pour le moment, beaucoup d'écoles sont restées fermées. Et tant qu'il n'y aura pas de mesures, je pense que les enseignants auront du mal à repartir.
Parlant d'autorités, justement à ce niveau-là, qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que vous en savez?
Bon, nous n'avons pas d'informations par rapport, donc je pense que ça doit rester un secret au sein de l'armée. Mais pour le moment, il n'y a pas d'informations par rapport aux stratégies qui seront menées pour pouvoir donc reprendre les zones donc où ces djihadistes mènent.
Est-ce que quand vous regardez la situation, on pourra ouvrir ces écoles dans une ou deux semaines, par exemple?
Nous avons espoir que peut-être s'il y a des mesures qui sont prises très tôt, on pourra peut-être ouvrir les écoles. Tant que ces mesures-là ne sont pas prises le plus tôt possible, les enseignants ne pourront jamais passer. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui craignent leur propre sécurité. Nous avons vu dans d'autres localités, outre la région de l'Est, où des enseignants ont été arrêtés et bastonnés par ces mêmes hommes-là, leur demandant de ne plus les aider à l'école. Donc ça fait que la plupart des enseignants, vraiment, même s'ils ont la volonté d'aller enseigner, ont vraiment peur de leur propre sécurité.
Est-ce que vous avez une estimation un peu du nombre d'élèves qui pourraient avoir quitté l'école?
Le nombre, non, mais je sais que en tout cas, pour la région de l'Est, plus de la moitié, bon, j'allais dire au moins la moitié des élèves, pour l'instant, semblent ne plus aller à l'école.
C'est qui ce chiffre en milliers?
À milliers, oui, ceci se chiffre bien sûr en milliers, mais le nombre, nous ne pouvons pas vous les donner.
C'était un habitant de Fada au Burkina Faso. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. En République démocratique du Congo, les combats se poursuivent dans la région de Beni, dans l'est du pays. 8 casques bleus et 12 militaires congolais ont été tués lors d'une opération des casques bleus et de l'armée congolaise contre les rebelles ADF dans cette partie du pays. Yakuba Ouedraogo a joint Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses, à Beni.
Effectivement, le combat se poursuit. Il y a eu d'intenses combats pendant les deux derniers jours, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi. Il y a eu des morts et des blessés. Maintenant, les combats sont sporadiques. Les ADF ont déplacé le front parce que après ce qu'ils ont subi comme défaite, ils doivent se venger sur les populations civiles.
Est-ce qu'ils ont commencé à se venger sur les populations civiles?
Oui, ils se vengent déjà parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont brûlé des maisons à Oïtia, à la périphérie de Oïtia, le chef-lieu de la territoire de Beni. C'est dans leur habitude, à chaque fois qu'ils subissent des défaites, ils ont des brigades qui se vengent sur les populations civiles. brûlent les incendies de maisons, ils tuent la population et puis ils repartent dans la forêt.
Est-ce que vous savez pourquoi ce combat-là entre les forces de l'ONU et les forces congolaises d'une part et de l'autre côté les ADF?
Les ADF, ce sont des islamistes. Comme ils le disent, ils ont la mission d'instaurer un État islamique. Ils occupent une grande partie du Rwenzori, donc du parc national de Virunga Nord. Ils kidnappent, ils prennent, ils recrutent des forces. L'État congolais qui veut récupérer une partie de sa souveraineté, une partie de son territoire. C'est ça, en fait, la raison de combat.
Dans un communiqué, le Conseil de sécurité ici justifie ce combat par la volonté de lutter contre Ebola. Comment les populations vivent tout cela?
Il y a un problème ici. Les ADF, ils ne sont pas seuls. Les ADF ont des alliés. Ils ont des béquilles qui sont des milices locales qu'on appelle communément les Maïmaï. Souvent, ce sont eux qui bloquent les équipes de la riposte de la maladie à virus Ebola. Parce que, bon, il n'y a pas vraiment de raison, mais ils veulent simplement saboter les efforts de paix et de guérison pour cette maladie qui attaque la population. Ils bloquent des équipes de riposte. Ils kidnappent même des agents de riposte et des fois ils caillassent les véhicules. Ils ne veulent pas de la présence de tous ces gens, que ce soit des gens de la santé, que ce soit des pharmacies et des casques bleus.
Comment les populations vivent tout cela à Beni? Est-ce que les populations sont apeurées?
Les populations sont traumatisées dans Beni, ville et territoire. Par exemple, dans la ville de Beni, il y a toute une commune qui est attaquée presque chaque jour. La commune qui est périphérique à Mayangose. La population a vidé cette colline qui s'appelle Rwenzori. Je peux vous le dire que depuis septembre à Beni, il n'y a pas rentrée scolaire, il n'y a pas de cours ni à l'école primaire et secondaire, ni dans l'enseignement supérieur. Donc il y a les universités, personne n'étudie, il y a une psychose, il y a du traumatisme. Les gens se posent des questions, ils ne savent pas à quel point se jouer.
Nikèze Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses, joint à Beni.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Et nous restons en République démocratique du Congo. Le Forum pour la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits électoraux a pris fin hier à Bukavu. À l'occasion de cette rencontre, les participants se sont engagés à fédérer leurs énergies pour des élections apaisées. Ernesto Mouero, notre correspondant à Bukavu, a couvert ce forum.
Pendant 3 jours, des réflexions et recommandations ont été formulées en panel sur comment améliorer la sécurité et protection des populations, consolider la cohésion sociale entre communautés et garantir une gouvernance participative qui intègre les femmes et autres groupes marginalisés. Mise au cabaret de la Ligue des consommateurs.
Il y a un problème de gouvernance. Lorsque nous sommes au niveau des villages, il y a un problème de répartition de manière équitable de l'eau peine des terres. Et pourtant, nous avons une masse rurale qui est en quête de la terre.
La chefferie pleine de la rosée se transforme de plus en plus en poudrière, ajoute le chef de cette chefferie, Richard Ndabagoy III.
On vit une période un peu compliquée, causée par l'insécurité qui nous est imposée par les groupes armés locaux et étrangers. Et il a été question d'exposer tous ces problèmes qui rongent nos communautés.
À Solange Loachiga, porte-parole du mouvement Rien sans les femmes en RDC, d'évoquer les conséquences de la faible participation des femmes aux instances de prise des décisions.
Au regard de la résolution 1325, nous avons souligné le fait que la faible capitalisation des instruments qui promeuvent les droits des femmes et surtout dans les instances de prise des décisions, ça crée aussi des conflits.
Pour Maurice Nyamugabo, expert au cabinet du président de la RDC, ces cadres étaient plus qu'une nécessité.
Cette circonstance qui permet à tout le monde de dire ce qu'il a sur le cœur concernant les relations entre les communautés. C'est une bonne initiative pour que cette élection soit un moment de cohésion et d'unité nationale.
Entre autres points saillants qui ont occupé une place des choix dans les discussions figurent la prévention et gestion des conflits liés aux élections. Philippe Kaganda est l'un des organisateurs du forum et enseignant d'université.
La paix est un devoir collectif. Les élections ne devraient pas être l'occasion de division, l'occasion de conflits entre les communautés, entre les individus. Tout le monde doit concourir à la cohésion sociale.
Le sénateur Moïse Nyarogabo interpelle la classe politique face aux élections attendues.
Les acteurs politiques doivent non seulement eux-mêmes avoir un discours apaisant, mais aussi éduquer et former leurs militants d'aller aux élections avec la volonté, la détermination de gagner, mais en considérant qu'il y a aussi la possibilité de perdre.
Pour Passion Bachombé, modérateur du cadre provincial des plaidoyers du Sud Kivu, cet élan des prises de conscience est à capitaliser.
Je remercie le partenaire USAID qui nous a soutenus. Nous voulons un Sud Kivu pacifié, un Sud Kivu où les fils et filles vivent dans la cohésion sociale, où nous parlons le même langage et nous avons le même idéal pour développer notre province.
De Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La Cour constitutionnelle du Gabon a rendu une décision mercredi soir permettant au Conseil des ministres de se réunir en l'absence du président Ali Bongo Ondimba. Il est hospitalisé depuis 3 semaines à Riyad. Aucune précision n'a été donnée sur son état de santé ni sur la date de son éventuel retour au Gabon. Éric Manirakiza a joint hier à Libreville la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Bouantso.
La décision ne modifie pas la Constitution. La décision qui a été prise sur le fondement de l'article 83 de la Constitution et l'article 88 de la Constitution permet de trouver une solution provisoire à une question qui n'a pas été traitée par la Constitution. Et c'est donc sur la base de cette saisine que la Cour constitutionnelle a statué.
L'opposition et la société civile vous accusent d'avoir opéré un coup d'État contre la Constitution.
Ben non, justement, c'est parce que nous ne sommes pas dans le cas de la vacance de la présidence de la République ou de l'empêchement définitif. Il fallait prévoir des dispositions provisoires pour régler le cas d'une indisponibilité temporaire qui, elle, n'est pas prévu dans la Constitution actuellement.
Est-ce que ça a un délai?
Cette décision s'applique tout simplement pour l'instant, pour ce conseil des ministres qui est prévu, qui était imminent. Maintenant, si la semaine prochaine ou autre, le président de la République revient pour présider ce conseil des ministres, la décision ne s'appliquera pas. C'est tout juste une solution provisoire pour régler une situation particulière qui se pose aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une modification de la Constitution. Ce ne sont pas des dispositions qui sont définitives.
Et le président y rentre bientôt?
Non, je ne suis pas au cabinet du président de la République ni au gouvernement. Je suis membre de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, donc relevant du pouvoir judiciaire. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que le président de la République va rentrer.
Avant de rendre cette décision, vous êtes assuré quand même que le président ne pouvait pas être là?
De toute façon, il n'est pas à Libreville.
Et son agenda qui ne pouvait pas attendre le retour du président de la République?
Le premier ministre a expliqué dans sa requête l'urgence d'adopter un certain nombre de textes. Il y a par exemple les emprunts qui ont été contractés par l'État et qui doivent être validés par le Parlement.
Quand est-ce qu'on peut déclarer la vacance de pouvoir?
La vacance de pouvoir est prononcée et constatée seulement que le président en exercice est décédé ou le président en exercice a démissionné, qu'on peut constater la vacance de la présidence de la République.
Non pas en cas d'absence prolongée.
Mais l'absence prolongée n'est pas une absence définitive. Ce n'est pas un empêchement définitif. Et là où nous sommes aujourd'hui, au moment où moi j'interviens sur vos antennes, nous ne pouvons pas parler d'absence prolongée.
C'était Marie-Madeleine Bouransouo, présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Mr. Chen. À la présentation, Raissa Girondin. On reste connecté sur notre page Facebook et sur notre site internet pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.